Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 3. Nous allons lire quelques versets 1 à verset 26. Romains, chapitre 3, verset 21 jusqu'à 28, pardon. Romains, chapitre 3, verset 21 jusqu'à 28. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà un passage que vous connaissez peut-être bien, mais je ne sais pas si on... Vous avez posé la question, trouver dans la Bible le passage qui pourrait être considéré comme le centre névralgique de l'Évangile. Je ne sais pas lequel vous auriez choisi, hein, mais beaucoup de commentateurs, de théologiens s'accordent pour dire que nous avons là, dans les textes que nous avons lus, le cœur même de l'Évangile. Je pense que dans le livre que certains d'entre vous lisent, là, « Connaître Dieu », hein, il dit cela, que ce passage est le cœur de l'Évangile. D'autres disent que c'est le centre même de la Bible, parce qu'il traite de la grande question qui se pose à chacun d'entre nous ici, et qui est la suivante. Comment un homme pécheur peut-il être juste devant le Dieu juste et saint? C'est ça la question qui se pose. Et la réponse nous est fournie dans ce texte. La réponse, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est ce que nous avons lu ici. Alors, pour bien comprendre ce texte, il aurait fallu lire depuis le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Mais si nous lisons à partir du verset 18, Romains chapitre 1 à partir du verset 18... l'apôtre Paul commence son exposé sur cette question de la justice ou de la justification avec ces paroles. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice qui retiennent les hommes injustement captifs. Et puis il développe comment la colère de Dieu se répand sur les hommes. Il traite, il montre que les païens sont condamnés à cause du péché. Il montre que les juifs sont condamnés même en ayant eu la loi. Et que finalement, tous les hommes, je crois qu'on a entendu beaucoup de messages là-dessus, tous les hommes sont sous l'empire du péché. Hein. C'est sa conclusion. Les juifs avec la loi n'ont pas pu suivre la loi et les païens avec la loi que Dieu a mis dans leur conscience et dans la nature n'ont pas pu suivre non plus la loi de Dieu. Et donc tous sont coupables, tous sont condamnés. Et si vous lisez au chapitre 3 et au verset 9, il est dit ici, « Crois donc ». Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Verset 10 dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est une chose terrible, hein? Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne ne fait le bien, personne ne cherche Dieu. Et au verset 19, il dit, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Voilà donc le verdict ici. Hein. Tous sous l'empire du péché et tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Et que faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ici? Le passage, rappelez-vous, avait commencé avec la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes. Que faire pour échapper à cette colère de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire, hein, ici? Et l'apôtre Paul le dit au verset chapitre 3 ici et au verset 20, il donne la réponse, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En fait, on ne peut rien faire. Il n'y a, jusqu'à ce point-là, que tristesse, j'ose dire, et désolation, condamnation, colère de Dieu, qui demeure sur tous les hommes, sans distinction, parce que tous ont péché. Le juif avec la loi, le non-juif sans la loi, tous sont coupables devant Dieu. Et puis le verset 21 arrive, donc l'apôtre Paul arrive au verset 21, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Pas la justice de l'homme, mais la justice de Dieu. Il dit, il n'y a aucun espoir du côté de l'homme. Aucun. Aucun. Aucune chose qu'il puisse faire, qu'il puisse apporter, aucun sacrifice, quoi que ce soit qu'il puisse faire pour espérer être juste devant Dieu et ne pas subir son jugement. Il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Et c'est sur cette expression que j'aimerais que nous nous attardions un peu ce matin. C'est la manifestation de la justice de Dieu qui a été accomplie à la croix du calvaire. Et donc le titre du message, c'est la justice de Dieu manifestée à la croix du calvaire. Si vous regardez la section 21 jusqu'à 26, je crois qu'il est dit quatre fois, il est question quatre fois de la justice de Dieu, verset 21. La justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, verset 22, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, la justice de Dieu, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alors si les versets, chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20, nous adressaient un tableau sombre et quasi sans espoir, enfin c'est sans espoir en tout cas du côté de l'homme, les versets 21 s'ouvrent avec un « mais » maintenant qui ouvre, hein, un horizon tout à fait nouveau, et c'est une phrase ici pleine d'espoir. Dieu a manifesté sa propre justice. Dieu a fourni sa propre justice. Et nous voudrais ce matin nous attarder sur quelques caractéristiques de cette justice. Ce passage est d'une profondeur, on pourrait dire presque inépuisable. C'est un concentré de théologie. Si vous prenez chaque mot, il y a avec chaque expression qui est dans ce texte, de quoi prêcher plusieurs messages. La rédemption, la propitiation, le sang de Jésus-Christ, la justification, la foi, la grâce. Tous ces mots sont dans ce texte et pourrait être, faire l'objet de plusieurs prédications. Mais nous voulons juste ce matin brosser comme cela en passant quelques traits caractéristiques de cette justice qui a été manifestée. Premièrement, ici, on peut voir que la justice de Dieu, il dit ici, a été manifestée sans la loi, ici, sans la loi, et mais conformément quand même au témoignage de la loi. La justice de Dieu a été manifestée sans la loi, mais conformément au témoignage de la loi, ici. Alors, c'est ce qu'il dit au verset 21, hein. Regardez ici. « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Ici. Hein. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que sans observation de la loi, hein, jusque-là, la loi de Moïse avait été donnée, le peuple devait observer la loi rigoureusement, et dans Lévitique chapitre 18, quoi, on trouve que celui qui fera ces choses, mettra ces choses en pratique, vivra par elles. Celui qui était capable de mettre toute la loi de Dieu parfaitement en pratique pouvait vivre, pouvait espérer être rendu juste devant Dieu. Mais personne, la Bible dit ici, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Personne n'a pu suivre cette loi à la lettre. En tout cas, aucun homme n'a pu suivre cette loi à la lettre. Et donc, dit ici, d'ailleurs, la parole l'exprime, hein, la loi n'a jamais été donnée comme moyen pour rendre les hommes justes devant Dieu, pour les déclarer justes devant Dieu. La loi révèle, est un révélateur, hein, elle révèle le péché. Et la loi, mais elle n'a pas été donnée pour rendre juste. L'apôtre Paul le dit ici, hein, au verset 20, il dit que nul ne sera sauvé par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. En Romains, vous vous rappelez, il dit, si la loi nous dit, tu ne convoiteras point, ben, j'aurais pas su que je convoite. Mais maintenant que la loi le dit, ça y est, je vois, je sens, je mesure cette culpabilité, parce que la loi dit, tu ne convoiteras point ici. Donc, Paul montre premièrement qu'il y a un lien quand même, néanmoins, entre la justice de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est hors sol, qui sort de rien, mais elle est, cette justice est profondément ancrée dans l'Ancien Testament, hein. Et même si ici c'est une manifestation de la justice sans la loi, elle est comme, elle a, le témoignage de cette justice a été rendu dans la loi et les prophètes. Alors, c'est une, si vous voulez, il présente un autre chemin, un chemin qui ne passe pas par l'obéissance à la loi, pas par les œuvres que l'on peut fournir en obéissance à la loi pour être justifié devant Dieu, mais il présente un autre chemin. Il dit que c'est pas que la justice de Dieu n'existait pas auparavant, mais elle se manifeste maintenant d'une manière différente et d'une manière efficace ici. Et il dit en plus que la loi et les prophètes rendent témoignage à cette justice de Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, on a en filigrane l'annonce déjà de la justice, la justification, par exemple, par la foi, hein, de la nouvelle alliance. Jérémie 31:31 dit, le dit, hein, Dieu dit, j'établirai avec mon peuple une alliance nouvelle. On le voit ici. Si on lit Romains chapitre 4, par exemple, Romains chapitre 4, l'apôtre Paul parle d'Abraham et de David pour mettre en évidence que même dans l'Ancien Testament, eh bien, la justification par la foi et existait déjà, que même dans l'Ancien Testament, c'est par la foi que l'on était rendu juste, déclaré juste devant Dieu. Regardez ce qu'il dit en Romains chapitre 4. Il dit, que dirons-nous donc? Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et donc, il parle d'Abraham pour dire que même tant d'Abraham, c'est par la foi qu'il a été justifié, pas par ce qu'il a fait, il a il a fait une œuvre ici. Hein. Et puis il parle aussi de David, hein, et il dit ici, de même David exprime le bonheur de l'homme qui à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ici, hein, montrer que cela était bien en évidence déjà même dans l'Ancien Testament. Et il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc tout ce passage avait été développé dans une étude, hein, notre frère Vincent avait fait cela, vous pouvez écouter si vous voulez le détail, on va pas passer du temps là-dessus, mais ce que je veux montrer ici, c'est que juste que dans l'Ancien Testament déjà, hein, faut pas croire qu'il y a deux manières, hein, une manière par laquelle on pourrait être sauvé en faisant des œuvres, et puis maintenant une nouvelle manière, non. La justice de Dieu est toujours la même, elle exige la foi, et c'est par la grâce que l'on est sauvé. Donc cette justice ici, dit l'apôtre Paul, premièrement dans notre passage, elle est sans la loi, mais néanmoins, elle est ancrée quand même dans la loi, et la loi a rendu témoignage de cette justice de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour nous, hein, de lire et de bien comprendre aussi l'Ancien Testament. On comprend les choses de la Nouvelle Alliance qu'à la lumière de ce qui est révélé dans l'Ancienne Alliance. Hein. Et j'écoutais un orateur qui disait que si ma doctrine que je semble puiser dans le Nouveau Testament contredit ce que je vois dans l'Ancien Testament, je peux m'assurer qu'elle est fausse. Et qu'elle n'est pas bonne. Hein. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, dit « À quoi sert la loi ?» Il pose cette question. « À quoi sert la loi ?» Et puis il dit « Elle a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. » C'est-à-dire, tout ce que la loi fait, c'est de nous, ou l'Ancien Testament pourrait dire, hein, fait, c'est de nous diriger vers Christ. D'accord ? Le frère Jean-Pierre l'a rappelé ce matin. Comment est-ce que nous comprenons la notion de sacrifice, sinon en lisant le Lévitique? Comment est-ce que l'on comprend la notion de la délivrance de l'esclavage du péché, sinon en lisant l'Exode? D'accord? Tout ce que nous pouvons comprendre dans le Nouveau Testament concernant Christ est déjà préparé pour notre compréhension dans l'Ancien Testament. Donc il faut ces deux choses. La justice de Dieu est ancrée déjà dans l'Ancien Testament. Nous avons une compréhension grande de ce que Christ fait, pas simplement en nous cantonnant au Nouveau Testament, mais en prenant la Bible dans son entier. Dans son entier. Comment comprendre le sacrifice de Jésus-Christ si on ne comprend pas tout ce qui est mis en lumière dans le Lévitique avec tout le système sacrificiel, le sang, la nécessité du sang versé. Comment on comprend qu'il nous faut un prêtre si on ne lit pas dans l'Ancien Testament qu'il fallait les prêtres, Dieu avait mis le tabernacle, etc. Toutes ces choses deviennent incompréhensibles à moins qu'on lise et qu'on approfondisse ce qui nous est enseigné dans l'Ancien Testament. Parce que tout cela a été donné comme un pédagogue pour nous conduire vers Christ qui est le prophète ultime, le roi ultime, le sacrificateur ultime, celui qui est même le temple. On parle du tabernacle dans l'Ancien Testament, mais Christ est le temple. Lui-même a dit « Détruisez ce temple et dans 3 jours je le rebâtirai ». Donc c'est important de prendre tout cela dans son ensemble. Parfois, il y a des gens qui disent, l'Ancien Testament, bon, je trouve, on a l'impression d'avoir un Dieu qui est dur, et puis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ah oui, ça c'est Jésus, c'est l'amour, c'est doux. Pas du tout, hein. L'Ancien et le Nouveau forment un tout. Il y a autant de choses graves dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et quelqu'un faisait remarquer que la personne qui parle le plus de l'enfer dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Alors, c'est important donc de considérer ces choses. Donc, Paul dit ici, cette justice n'est pas quelque chose de nouveau qui efface tout et qui vous permet de fermer l'Ancien Testament et de vous cantonner qu'au Nouveau. Mais cette justice de Dieu est une justice dont le témoignage a été rendu déjà dans l'Ancien Testament. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que la justice de Dieu ici, on le voit, est accessible à tous sans distinction par la foi en Jésus-Christ. Versets 22 et 23, il dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a aucune distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous sont sans distinction devant Dieu. Et la justice de Dieu est pour tous ceux qui croient, dit-il ici, en Christ, sans distinction. Et donc Paul avait déjà établi, rappelez-vous, l'absence de distinction devant Dieu concernant l'état spirituel des hommes. Hein, et puis il réaffirme un peu cette vérité en faisant de cette vérité même la raison, on pourrait dire, de l'universalité de l'accès à la justice de Dieu. On aime insister sur nos particularités, sur nos différences, sur ce qui nous distingue. On aime bien se regrouper, voilà, par ethnie, par langue, par culture. Hein. On tire parfois même gloire de ce qui nous distingue. Chez moi, on fait comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Et nous, dans notre pays, c'est comme ceci. Notre nourriture est meilleure que votre nourriture. Enfin, c'est pas tout ce qu'on peut trouver. Hein. On aime insister sur les différences que ce qui peut-être nous distingue. Certains insistent parfois sur leur héritage religieux. Hein. Moi, je suis chrétien de plusieurs générations. Dans notre pays, on est chrétien voilà, de génération en génération. Et dans le monde, il y a des hommes, c'est vrai, qui ont plus d'avantages que d'autres. Hein. Il y a des distinctions qui sont évidentes. Il y en a qui sont plus riches, il y en a qui sont plus libres, il y en a qui sont plus intelligents, il y en a qui sont plus beaux. Il n'y a pas dans quelle catégorie vous vous situez, mais il y en a qui sont plus sensibles à la musique, etc. Il y a des avantages indéniables que l'on doit reconnaître. Mais aucun de ces avantages ne fait une distinction pour Dieu. Il n'y a, dit le passage ici, aucune distinction. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune distinction pour Dieu? La raison est simple. C'est parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que ce par quoi Dieu mesure, ça n'est pas la distinction basique, extérieure, de langue, de culture, d'intelligence ou tout ceci. Il mesure par l'état spirituel devant lui. Et donc si tous ont péché, tous sont au même niveau. Si vous êtes riche, vous êtes un pécheur riche. Si vous êtes pauvre, vous êtes un pécheur pauvre. Si vous êtes blanc, vous êtes un pécheur blanc. Si vous êtes noir, vous êtes un pécheur noir. Si vous êtes belle, vous êtes une pécheresse belle. Mais vous êtes quand même pécheur et pécheresse et privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas. C'est ce qui établit la norme, c'est la justice du Dieu saint. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul présente la chose. Il dit, il n'y a aucune distinction pour s'approcher de Dieu. On peut pas avancer qu'on est juif ou qu'on est grec ou qu'on est religieux ou qu'on est ceci parce que tous ont péché devant Dieu. Il n'y a aucune distinction. L'avantage du juif existait réellement. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul dit au début de notre chapitre 3, verset 1. Il dit, quel est donc l'avantage du juif, des juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Est-ce qu'il dit qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit, il est grand de toute manière et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été écrits. C'est une chose indéniable, c'est un avantage considérable, le fait d'avoir été les dépositaires des oracles de Dieu. Peut-être ça ne nous fait rien, mais imaginez, voilà, vous êtes français, ou bien vous êtes antillais, vous êtes martiniquais, et puis voilà, c'est ce peuple qui a été choisi comme dépositaire des oracles de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi pour être témoin auprès des autres peuples. C'est un avantage considérable. L'apôtre Paul dit, il est grand. Mais néanmoins, cela ne fait pas de distinction spirituelle aux yeux de Dieu. Il dit, tous, le juif comme le grec, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la condamnation, elle est sans distinction d'ethnie, de rang social ou de sexe ou autre chose. Et donc, ici, l'apôtre Paul dit que la justice de Dieu, elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a donc non plus aucune distinction pour accéder à cette justice. Il ne faut pas être juif pour y accéder. Il ne faut pas être grec pour y accéder. tous sans distinction de race, de provenance ou de nationalité, ont accès par la foi en Jésus-Christ à la justice de Dieu. Au verset 29 et 30 du chapitre 3, l'apôtre Paul dit « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Il y a un seul Dieu qui justifie tous les hommes de la même manière, pas par les œuvres de la loi, pas parce qu'ils sont circoncis, mais par la foi en Jésus-Christ. Et c'est le seul moyen d'être déclaré juste devant Dieu. C'est de recevoir Christ par la foi, ici. Et la foi dont il est question, c'est pas simplement le fait parfois on dit croire, hein, je crois que Dieu existe. Mais, ben, Jacques dit, ben, tu fais bien, mais les démons aussi. Quoi? Ça n'avance pas. Non, qu'il y a plusieurs choses. Hein, on avait été enseigné dernièrement qu'il y avait trois étapes à la foi. Hein, on définissait comme cela, trois étapes à la foi. Il y a d'abord la question d'avoir un ensemble d'informations, de données. Il faut avoir, pour exercer la foi, d'accord, des informations. Hein, on ne croit pas dans rien, il faut bien quelque chose. Et puis, donc c'est tout ce que l'Écriture nous révèle. Il y a l'assentiment intellectuel à cette vérité qui nous est révélée, mais cela ne suffit pas, il faut aussi la confiance. Il faut vivre de cette vérité. Et l'exemple qu'on avait donné, rappelez-vous, c'est celui-ci, c'est cet homme qui est un funambule qui peut marcher sur le fil, et puis il y a des spectateurs, et puis il leur dit ici, voilà, moi je peux marcher sur ce fil, faire l'aller-retour, les yeux fermés, sans tomber. Est-ce que vous croyez cela? Alors, il y a d'abord l'information, oui, et les gens ils demandent aux gens, est-ce que vous le croyez? Oui, les gens, ils croient, intellectuellement, ils sont d'accord. Bon. Et puis, il le fait, et puis il revient, et puis il dit, voilà, je suis capable de marcher avec une brouette, en poussant une brouette, sur le fil, les yeux fermés, faire l'aller-retour sans tomber. Est-ce que vous le croyez? Et ils disent, oui, on le croit. Et puis après, il dit, je suis capable aussi de mettre quelqu'un dans la brouette et de faire l'aller-retour les yeux fermés sans tomber. Est-ce que vous le croyez? Ils disent oui. Il dit, qui veut venir? Il n'y a personne qui lève le doigt. D'accord? Et donc, si vous voulez, ça donne un petit peu l'image de ce que c'est que la foi. On peut avoir des informations, on peut croire que c'est même vrai, mais on peut être bloqué quand il s'agit de placer sa confiance dans ce que l'on a cru être vrai, c'est-à-dire rentrer dans la brouette, faire confiance au Seigneur Jésus-Christ, lui abandonner notre vie. Ça, c'est une chose qui est différente et beaucoup plus profonde. Donc la foi, c'est pas simplement le fait de dire « je crois ici ». Quand l'apôtre Paul dit « justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ », c'est-à-dire pour ceux qui s'abandonnent pleinement à Jésus-Christ, qui croient ce qu'il dit, qu'il accepte ce que Dieu dit par rapport à nous, qui accepte ce que Dieu dit par rapport à Christ, par rapport à lui-même, qui se tourne vers Jésus-Christ et qui abandonne son péché, qui vit, qui reçoit une nouvelle vie et qui vit cette nouvelle vie. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple assentiment ici intellectuel. Et donc, la justice de Dieu est accessible, on pourrait dire, à tous ceux qui croient sans distinction par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Pas besoin de devenir juif, comme voulait le faire, rappelez-vous, dans Actes chapitre 15, certains juifs qui voulaient, oui, on est sauvé par grâce, mais il faut passer par la circoncision pour être sauvé. Eh bien, l'apôtre Paul dit, pas du tout. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Troisième chose que je souligne ici, c'est que la justice de Dieu apaise la colère de Dieu. La justice de Dieu apaise la colère de Dieu. Regardez encore le verset, on tourne à Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, ici, et nous pouvons lire verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, jusque-là. Alors, on pourrait pas voir tous les mots qui sont dans ce texte, mais il y en a un sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le mot propitiatoire, victime propitiatoire. Quel est le fondement, on pourrait dire, sur lequel s'appuie la justice de Dieu? Ce n'est pas sur la foi, d'accord? La foi, notre foi n'est pas le fondement sur lequel la justice de Dieu s'appuie, d'accord? Ce n'est pas notre foi qui nous sauve, d'accord? Ici, il dit, le fondement, ici, c'est la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est le fait que Christ a payé le prix pour que tous ceux qui placent en lui leur confiance puissent avoir la vie, ici. Et le mot sur lequel je voudrais plutôt marcher, c'est le mot ici, propitiatoire, victime propitiatoire. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Cela a affaire avec le fait d'apaiser. J'ai cherché dans le dictionnaire, même Larousse, il dit c'est des actions que l'on peut faire pour apaiser la colère de Dieu ici. Alors bien sûr, souvent on pense, quand on pense à cela, aux païens qui font beaucoup de choses pour tenter d'apaiser la colère des dieux, le dieu de la pluie, le dieu du tonnerre, le dieu du soleil, etc. Et puis, il faut faire des choses, faire des sacrifices pour pouvoir tenter d'apaiser la colère de ces dieux qui sont capricieux, on ne sait jamais ce qu'il faut faire. Ils sont toujours fâchés, et puis, il faut pouvoir trouver comment les apaiser. Mais l'apôtre Paul utilise ici dans ce sens où la colère de Dieu doit être apaisée. Rappelez-vous, en Romains chapitre 1, verset 18, comment le texte commence? La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Il n'est pas dit autre chose que cela. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et tout le reste du passage montre comment se manifeste cette colère de Dieu qui est révélée. Et le mot « la colère de Dieu est révélée », ça veut dire qu'elle est en action, elle est active. Et donc, ce sous quoi se trouve l'homme qui n'a pas reçu Christ, c'est la colère de Dieu. Tout ce qu'il fait est sous le coup de la colère de Dieu. La colère de Dieu est plusieurs fois mentionnée dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 2, verset 5, regardez avec moi, chapitre 2, verset 5, il dit ici, mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, je continue. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Romains chapitre 5 verset 9. Verset 8 déjà, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Il ne faut pas sous-estimer, lorsque l'on parle de la justice de Dieu, la notion de la colère de Dieu. Le péché suscite la colère de Dieu. Et j'ose dire la colère de Dieu à la fois contre le péché, contre le pécheur. La Bible dit, parfois on a tendance à dire, oh Dieu, il a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Enfin, vous lisez les psaumes, il dit, Dieu a en horreur le méchant. Dieu est amour, bien sûr, mais le péché attire sur nous la colère, la juste colère de Dieu. Et il est important de considérer ça. La colère de Dieu, disait Arthur Peake, est une de perfection du caractère divin sur laquelle il est nécessaire que nous méditions souvent. Premièrement, pour que nos cœurs soient pleinement pénétrés de la haine que Dieu éprouve envers le péché. Deuxièmement, pour que nos âmes acquièrent une réelle crainte de Dieu. Nous ne pouvons le servir d'une façon qui lui soit agréable si nous ne sommes pas remplis de piété pour sa majesté redoutable et de crainte à la pensée de sa juste colère. Il dit c'est important pour chaque homme de considérer cela ici. La colère, le péché suscite la colère de Dieu. Elle est active, toujours actuellement. Et la Bible dit même que l'expression, c'est dans Romains chapitre 1, l'expression même de la colère de Dieu, c'est qu'il a livré les hommes au penchant de leur cœur. Donc quand on voit les hommes commettre ce qu'ils sont en train de commettre actuellement, commettant homme avec homme des infamies, femme avec femme des infamies, il dit que tout cela, c'est parce que la colère de Dieu se déverse et qu'il, dans sa colère active, il livre les hommes au penchant mauvais de leur cœur. Il nous faut être conscients que la colère de Dieu s'exprime déjà aussi par cette manière-là. Et pourquoi? Parce que le péché est une offense, premièrement, contre Dieu. Le péché, comme disait quelqu'un, n'est pas quelque chose d'horizontal. Quand on pense, j'ai péché contre mon frère, oui, quelquefois, on pêche contre son frère. D'accord? Si je lui mets un coup de poing, j'ai péché contre lui. Mais j'ai d'abord péché contre Dieu. Lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, il a péché contre Bathsheba. Il a péché contre le mari de Bathsheba qu'il a fait tuer. Il a péché contre son peuple, parce que la Bible dit même qu'il a été un mauvais témoignage. Quand Nathan vient le voir, Nathan lui dit, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Il a péché contre les ennemis de l'Éternel parce qu'il les a amenés à blasphémer. Mais quand il prie dans sa prière de repentance, dans Psaume 51, qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché contre toi seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas conscient qu'il a péché contre Bathsheba, contre Uri, mais ça veut dire qu'il a conscience que dans son péché, dans son acte d'adultère, il a offensé Dieu. Et quel que soit le péché que l'on commet, petit ou grand, on oublie une virgule sur la feuille d'impôt, ou bien, je ne sais pas moi, c'est contre Dieu qu'on pêche. Le péché est une offense contre Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. Je crois quelque part, dans le passage aux Romains qu'on est en train de lire, il le dit, hein, le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Alors on peut pécher par des actes, mais on pêche aussi par nos pensées. Jésus le dit, hein, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On a péché contre Dieu. Et la colère de Dieu se révèle contre tout cela, parce qu'il est offensé lorsque l'homme pêche. Et donc, Paul dit ici que Jésus-Christ a été destiné par Dieu lui-même, dans la justice de Dieu, à être la victime expiatoire. Celui qui, par son sang, apaisera la colère de Dieu. Et donc, c'est important de considérer cela. C'est pas la même chose que l'expiation. Hein. Peut-être que dans vos Bibles, il y a expiation. Je sais pas s'il y a expiation dans vos Bibles. Parfois, certains ont traduit de mettre expiation, mais ce n'est pas la même chose ici. Et le livre que vous lisez, là, James Speaker, hein, sur connaître Dieu, fait la différence. Il l'établit à la page, vous allez le voir, 206, la différence sur ce que c'est que l'expiation et la propitiation. Je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit, l'expiation est une action qui a pour objectif le péché. Le péché qu'elle couvre, qu'elle ôte ou qu'elle efface, faisant ainsi disparaître la barrière qui empêchait l'homme d'être en communion avec Dieu. Il dit, le mot propitiation, quant à lui, exprime, outre ce que contient déjà le mot expiation, il exprime l'idée d'un apaisement de la colère divine. C'est intéressant de considérer cela. Il donne un exemple, par exemple, Nombre chapitre 17, pardon, on ne va pas le lire, mais verset 11 jusqu'à la fin, où il est question de, je crois que c'était d'Otan, tout ça, qui, et après, il y avait une plaie que l'Éternel a lancée contre le peuple à cause de leur péché, et il dit que quand Moïse a pu faire l'expiation, eh bien, le passage est bien disant, la plaie a été arrêtée. Comme s'il dit, il y a cette notion là-dedans que Dieu est satisfait avec ce qui a été fait. Et donc, la plaie s'arrête. Donc, bien sûr, les deux choses sont liées. Le péché est effacé, mais parce que le péché est effacé, Dieu est satisfait. Et donc, la plaie peut s'arrêter. Donc, dans ce que Paul exprime ici, il dit que la justice de Dieu qui a été manifestée à la croix, eh bien, elle montre que le péché, que la colère de Dieu est apaisée par le sang de Christ qui a été versé pour nos péchés. Il a fallu, de même qu'il a fallu le sang des animaux dans l'ancienne alliance, il a fallu le sang d'un agneau sans défaut. Sur le propitiatoire, vous vous rappelez, dans le propitiatoire était ce couvert qui était sur l'arche, et le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait et puis répandait le sang sur le propitiatoire. Je pense que cette image-là est ancrée dans ce que Paul est en train de dire ici. Il dit que Christ, lui, a été désigné par Dieu lui-même, la victime propitiatoire, celle qui est propre par son sang à apaiser la colère. Autrement dit, Dieu a pourvu lui-même ce qui peut apaiser sa propre colère. Et c'est son propre Fils. Tout le salut est à l'initiative de Dieu. L'homme n'y est pour absolument rien. Ça, l'apôtre Paul dit, aucune possibilité d'être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Il faut saisir la justice de Dieu. Justice que lui-même a pourvue. Il a pourvu l'agneau, hein, comme Abraham avait dit, hein, Seigneur pourvoira, okay. Il a pourvu l'agneau. Et Jésus a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit qu'il est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, et qu'il a obtenu une rédemption éternelle, parce qu'il a pleinement satisfait aux exigences de la justice parfaite et sainte de Dieu. Et donc, il a apaisé par son sang, par son sacrifice. Et le sang exprime pas simplement la mort, mais le sacrifice violent. Hein. C'est ça qu'il y a dans l'idée du sang quand on en parle, c'est le sacrifice violent qu'il a subi. Son sang a été répandu et Dieu est ainsi apaisé. Donc quand nous célébrons la scène, nous nous souvenons de cela, que nous avons été épargnés de la colère de Dieu parce que Christ a été la victime propitiatoire, celui qui apaise la colère de Dieu. Et cela doit nous pousser à l'adoration. John Murray dit ceci, il dit, cité dans le livre de James Parker que vous avez, il dit « La doctrine de la propitiation veut précisément que Dieu ait tant aimé les objets de sa colère qu'il a donné son propre Fils afin que par son sang, sa colère soit apaisée. Ce fut donc Christ qui dut affronter la colère pour que ceux que Dieu aimait échappent à cette colère et pour que l'amour accomplisse son dessein en transformant les enfants de colère en enfants du bon plaisir de Dieu. » C'est bien exprimé, je trouve, ici. C'est Dieu qui a pourvu lui-même tant aimé le monde qu'il a désigné, destiné son propre Fils avec lequel il entretenait une relation éternelle à devenir la victime propitiatoire afin que les objets de son amour passent du statut d'enfant de colère à celui d'enfant de Dieu et qu'ainsi il soit déclaré juste devant Dieu. La justice de Dieu concerne donc d'abord l'apaisement de la colère de Dieu. Et quatrième point, terminé ici, peut voir que la justice de Dieu manifestée procure bien sûr la justification du pécheur, mais tout en prouvant que Dieu est juste aussi. Ce que l'apôtre Paul veut montrer ici, hein, il dit clairement d'ailleurs, il dit à partir du verset, regardez Romains chapitre 3, verset 25, il dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. » Dieu tient à montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Pas encore puni le péché. Il l'a puni dans la personne de son fils. Mais il veut montrer sa justice et regarder la suite afin, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. On pourrait presque dire que Dieu avait un dilemme ici, c'est-à-dire comment. Il ne peut pas effacer le péché comme ça. C'est bon, j'efface ton péché, tu n'as plus rien fait. Non, pas. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut qu'en tant que juste juge, il accomplisse un juste jugement. Mais en même temps, comment sauver l'homme ici? Comment faire pour justifier l'homme pécheur tout en demeurant un Dieu au caractère juste? Eh bien, c'est la justice de Dieu, telle que l'apôtre Paul l'exprime ici, dans le fait qu'il a désigné son fils comme victime propitiatoire, porté sur lui nos péchés. Ainsi, il a imputé nos péchés à Christ, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. D'accord? Et puis, il nous a imputé la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle ici le double échange. Donc, la justice de Dieu que Dieu met en œuvre, elle prouve à la fois que Dieu est juste parce qu'il punit le péché et en même temps que Dieu a trouvé le moyen de justifier le pécheur. Le sacrifice de Christ justifie à la fois le caractère juste de Dieu et le sacrifice de Christ justifie celui qui a la foi en Christ. Dieu donc a présenté Jésus-Christ comme sacrifice propitiatoire, dit quelqu'un, pour rendre évidente sa justice ou sa légitimité, la légitimité de sa conduite à l'égard de la rémission des péchés commis auparavant. On peut dire, il n'est pas juste, il n'a pas puni, il y a des gens qui ont commis des péchés, il n'y a jamais rien eu. Non, il dit, c'était resté impuni, mais maintenant Dieu manifeste qu'il est juste, d'accord, en pourvoyant ici, en punissant le péché dans la personne de son fils, mais en même temps en justifiant le péché. Donc le sacrifice de Christ à la croix est la manifestation, on pourrait dire publique, à la fois de la miséricorde de Dieu et du caractère juste de Dieu. Il fait miséricorde au pécheur, mais en même temps il punit le pécheur en la personne de son fils. L'apôtre Paul dit, l'épître aux Romains, que Dieu a condamné le péché dans la chair de son fils, une chair semblable à la nôtre, ici. Et un commentateur dit ceci, il dit, c'est ainsi que la justice et la miséricorde s'unissent harmonieusement dans la justification du pécheur. La justice n'en est pas moins justice, quoique la miséricorde ait son œuvre parfaite, ni la miséricorde moins miséricorde, quoique la justice soit complètement satisfaite. Dieu a pourvu, a montré sa justice parfaite en faisant reconnaître son caractère juste à l'égard du péché et en même temps en sauvant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Et donc il n'y a pas, on a lu tout à l'heure, hein, il n'y a pas d'autre un autre moyen de salut. Il n'y a pas un autre chemin par lequel on puisse être déclaré juste devant Dieu. Il n'y a seulement la foi en Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Je voudrais dire ici, si vous êtes au Seigneur, nous devons considérer, lorsque nous pensons à Dieu, à la justice de Dieu, la gravité, le caractère grave du péché. Bon, il arrive que pour nous, le péché, ça devient quelque chose de banal. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit ici, quand on comprend que la colère de Dieu se révèle à cause du péché, quand on voit le prix qui a été payé à cause du péché, on ne doit pas considérer le péché de notre vie comme une petite affaire. Il dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'iniquité. Donc le chrétien ne doit pas prendre le péché à la légère et faire comme si c'est pas grave. Je dois pardonner à mon frère. C'est pas une petite affaire si je ne le fais pas. Je commets un péché, c'est grave. C'est grave quand je considère comment la colère de Dieu demeure sur ces choses. Ici. Je voudrais dire, peut-être vous êtes là, mais vous ne connaissez pas Christ. La Bible dit que celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Et là, colère de Dieu demeure sur lui. C'est universel, hein? C'est pour tout le monde. Il n'y a pas un Dieu pour les Juifs, un Dieu pour les Africains, un Dieu pour les Américains, un Dieu pour les Français. C'est le même Dieu. On l'a dit tout à l'heure, hein? Il est aussi Dieu des Juifs et Dieu des païens. Universellement. Et il dit que si on ne place pas sa confiance en Jésus-Christ, on demeure sous la colère de Dieu. Il n'y a pas d'alternative à la justice que Dieu propose. C'est la justice de Dieu ou la colère de Dieu. Et je voudrais lire ici ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 10, pour terminer, Romains 10, à partir du verset 1, il dit « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour ceux de son peuple, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Je crois que c'est le vœu de tous les croyants pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. C'est notre vœu pour vous ici si vous ne connaissez pas encore Christ. C'est que vous soyez sauvés. Mais il dit ceci, il dit « Je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. » Et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ils cherchent leur propre justice. Comme l'apôtre Paul lui-même avait cherché sa propre justice en son temps, rappelez-vous. Ces choses qui pour moi étaient des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Et il dit qu'il cherche à être trouvé en Jésus-Christ, non avec ma propre justice, dit-il, avec celle de la loi, mais avec la justice de Dieu, celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et je vous laisse cette exhortation que Paul lançait aux Corinthiens. Je veux la faire mienne aussi, il dit en 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20, dit « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, quoi ? Justice de Dieu. Hein? Dieu a fait devenir son Fils péché pour nous, pour que nous puissions être trouvés dans la justice de Dieu. Ça, c'est absolument une bonne nouvelle. Il n'y a aucune possibilité d'atteindre Dieu par nos œuvres, par notre vie. Je pourrais faire le mieux que je peux. Jamais, jamais je pourrais approcher que d'un millimètre le ciel. Mais je peux saisir par la foi l'offre, le salut que Dieu donne, la justice de Dieu celle qui s'obtient par la foi, celle qui concerne la rédemption que l'on a en Jésus-Christ, celle qui est universelle, qui ne fait aucune distinction entre les hommes. Et je peux par la foi en Jésus-Christ être sauvé. Que le Seigneur nous aide et nous conduise. Si nous sommes au Seigneur, que ces choses puissent être pour nous des sujets d'adoration et que nous puissions nous écarter du péché, sachant la colère de Dieu qui demeure sur ces choses et le prix inestimable que Dieu a payé pour que nous puissions être sauvés de sa colère. Que le Seigneur nous conduise. Merci encore, Seigneur, pour ta parole et donne-nous de mener une vie inconséquente, de dire que nous sommes tes enfants et de flirter avec le péché. Donne-nous de méditer encore la profondeur de ces choses que nous avons à peine effleurées ce matin. Et Seigneur, que nos cœurs puissent être réjouis dans le fait que nous n'avons absolument rien à faire. C'est toi qui as tout accompli. Certes, tu nous demandes de travailler à notre salut. Certes, nous devons faire des efforts pour ajouter à notre foi, la patience, la bonté et toutes ces choses. Mais c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Merci pour ta justice qui sauve parfaitement. Et je te prie pour que tu attires nos cœurs à toi dans l'obéissance, que tu attires les cœurs de ceux qui sont ici ce matin, qui ne te connaissent pas, que tu les touches dans ta grâce. Au nom de Christ. Amen.